Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. 90 minutes info commence le débat juste après le rappel des titres avec Somaïa Labidi. Bonjour.
Affaire Le Tan, la perpétuité de nouveau requise en appel contre Jean-Marc Reiser. L'homme de 62 ans est accusé d'avoir assassiné en 2018 la jeune étudiante Sophie Le Tan. En première instance, le suspect avait été condamné à la perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Les suites de l'agression violente d'une octogénaire à Cannes, ces deux agresseurs ont été condamnés à 12 mois avec sursis probatoire. Au total, ils auront donc fait 10 mois en centre éducatif fermé. Pour rappel, le 29 août dernier, la vidéo de l'agression de l'octogénaire avait provoqué colère et émotion dans toute la France. Et puis le coup d'envoi des soldes d'été dans un contexte morose pour le prêt-à-porter. Le secteur espère tout de même profiter de ce rendez-vous pour finir la saison sur une embellie. Mais les difficultés s'accumulent entre inflation galopante, faillite et concurrence en ligne.
Merci beaucoup. Et c'est évidemment à la une en ce mercredi, l'émotion et la colère conjuguées après la mort de Naël, 17 ans. Le policier qui a tiré le coup mortel a vu sa garde à vue prolongée. Beaucoup de réactions politiques et un débat qui s'enclenche aussi sur la riposte de la police en cas de refus d'obtempérer.
Le refus d'obtempérer n'a jamais conduit à un permis de tuer. Le refus d'obtempérer en soi n'a jamais... Il n'y a jamais eu de tir sur un refus d'obtempérer. Jamais. Il y a toujours un tir lorsque... virgule, au refus de tempérer, virgule, s'ajoute ce que le policier estime être une menace imminente pour lui-même ou pour autrui.
Et puis cette question, Emmanuel Macron parviendra-t-il à faire ce que des gouvernements successifs n'ont pas réussi à mettre en œuvre à propos du calendrier scolaire ?
La France est un pays dans lequel les vacances estivales sont parmi les plus longues. Et parfois, vous avez des enfants qui sont déscolarisés pendant 2 mois et demi. Beaucoup... trop d'enfants dans le pays, hélas, ne partent pas en vacances.
Si on raccourcit les vacances scolaires d'été, ça va plutôt être un déficit qu'un bénéfice.
Et à la une, évidemment, l'émoi toujours à Nanterre après la mort de cet adolescent âgé de 17 ans, Naël, tué lors d'un refus d'obtempérer. On va évidemment largement en parler dans le courant de cette émission avec vous, Sandra Buisson, pour le service police-justice. Merci d'être là. Élodie Huchard, pour la partie décryptage politique. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réactions depuis hier soir déjà. Bonjour Judith Vintraub, merci d'être là. Je rappelle que vous êtes grand reporter au Figaro Magazine. À vos côtés, Jonathan Sixou, journaliste chez Causeur. Bonjour. Et puis Yann Bastière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes délégué national d'unité SGP Police. La nuit a donc été explosive dans plusieurs quartiers de Nanterre et même au-delà. Et à l'arrivée, de nombreuses interpellations et des blessés également parmi les forces de l'ordre. Récit de cette nuit qui a suivi évidemment les mois consécutifs à la mort de Naël. Célia Barotte, Mathilde Ibanez.
Hier, vers 8h30 du matin, des policiers souhaitent contrôler un véhicule circulant sur une voie de bus. Le conducteur, un jeune homme de 17 ans, a d'abord refusé de s'arrêter, puis a obtempéré avant de redémarrer. Selon les informations policières, l'automobiliste aurait foncé sur l'un des agents, mais une vidéo des faits, publiée sur les réseaux sociaux, montre le fonctionnaire debout, côté conducteur, et ouvrant le feu avec son arme administrative sur l'homme au volant. Des images accablantes, selon le maire de la ville des Hauts-de-Seine.
Je souhaite que l'enquête qui est ouverte... jusqu'au bout, l'immense aspiration de tous les habitants de cette ville, c'est que toute la vérité soit faite.
La voiture qui transportait 3 personnes a terminé sa course encastrée dans un poteau quelques mètres plus loin. Le passager avant a pris la fuite, celui à l'arrière a été interpellé et le conducteur, pris en charge par les secours, est décédé à 9h15. Sur les lieux du drame, les proches du jeune homme évoquent avec beaucoup d'émotion une injustice.
Il n'y avait personne devant, il pouvait écraser personne, il n'y avait pas de délit de fuite, on le voit clairement dans la vidéo et j'espère que la justice fera son travail, que justice sera faite.
Il ne méritait pas ça, personne ne mérite ça de cette façon-là. Je demande qu'il prenne perpétuité en fait, voilà.
Deux enquêtes ont été ouvertes, dont une pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Elle a été confiée à l'IGPN pour déterminer si le cadre légal d'usage des armes a été respecté.
Et puis un petit peu plus tôt cet après-midi, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale où siègent en ce moment les députés. Je vous propose de regarder quelques instants ces images de l'hémicycle. À ses parents et à ses proches. Et pour être tout à fait complet, Elisabeth Borne, de son côté, qui était au Sénat pour la séance de questions du mercredi, a été interpellée sur cette question. Je vous propose d'écouter sa réponse.
Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Nahel et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie, elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue. Et je souhaite, comme chacun, que la vérité puisse être faite au plus vite.
Alors, Élodie Huchard, je vais commencer avec vous. Elisabeth Borne, elle parle après Emmanuel Macron depuis Marseille, qui lui aussi a été amené à s'exprimer sur ce drame. Évidemment, le choix des mots est très important. On peut aussi déjà décrypter en partie ce qu'a dit le président de la République.
Oui, parce qu'en fait, ce qui est particulier, d'ailleurs, ils ont la même attitude l'un et l'autre, c'est de rappeler qu'il y a quand même une séparation des pouvoirs, de rappeler qu'il y a une enquête de justice. Et donc, traditionnellement, les ministres, députés ne commentent pas la justice en cours. Et pourtant, on a là Elisabeth Borne qui dit quand même que selon les images, l'intervention ne semble manifestement pas conforme. Et Emmanuel Macron, tout en appelant au calme, il parle quand même d'une faute inexcusable. Donc ça veut dire que selon lui, en fait, finalement, la justice est déjà passée. Il y aurait eu un comportement inexcusable. Donc le policier est forcément en tort. C'est un exécutif qui est sur un jeu d'équilibriste, qui a peur évidemment de l'embrasement des banlieues, qui fait attention à chacun des mots. Mais forcément, quand on a une succession de prises de parole qui tendent quand même à aller dans le sens de « effectivement, il y a eu un problème », ce n'est pas vraiment pour apaiser les consciences. Ont-ils vraiment le choix de dire autre chose? Sans doute pas, mais forcément, dans un climat tendu, chaque mot compte.
Sandra Buisson, un point peut-être sur l'enquête. Où en est-on? On sait que la garde à vue a été prolongée. On va vers quoi maintenant?
La garde à vue a été prolongée. On sait également que le deuxième policier qui intervenait également a été entendu hier en tant que témoin dans la procédure sur le refus d'obtempérer. Les enquêteurs qui ne se contentent pas de la vidéo, effectivement, qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui vont utiliser ces diverses auditions, notamment celle du passager arrière, le mineur qui était assis dans la voiture et qui lui aussi a été entendu sous le régime de la garde à vue hier. Il va y avoir les témoignages des personnes qui ont assisté à cette scène, les auditions bien sûr cruciales des deux policiers, puis la vidéosurveillance de la ville qui va être saisie. Il y aura les analyses balistiques, une éventuelle reconstitution, donc des investigations qui s'annoncent longues et vraisemblablement donc on va vers une ouverture d'information judiciaire avec la désignation d'un juge d'instruction vraisemblablement à la fin de la garde à vue du policier qui a tiré, avec une éventuelle mise en examen pour les chefs de l'ouverture de cette enquête. Il faudra voir ensuite, après le débat devant le juge des libertés et de la détention, s'il est laissé libre le temps de l'enquête, s'il est laissé libre sous contrôle judiciaire ou placé en détention provisoire. Voilà pour l'évolution des procédures, mais l'enquête s'annonce effectivement assez longue.
Yann Bastière, cette vidéo, est-ce que vous vous dites cette vidéo accablante et cette déposition, enfin ces mensonges a priori du policier, vous dites de toute façon, voilà, tout est accablant dans ce dossier, ou vous dites attention, n'allons pas trop vite en besogne et attendons précisément le travail des enquêteurs de l'IGPN?
Non, en tout premier lieu, c'est vrai, c'est le accablant que j'accepte pas. Parce qu'effectivement, quand on dit que c'est accablant, c'est qu'on oriente déjà l'enquête. Je suis un ex-enquêteur, rien n'était accablant. Je prenais tous les éléments qui pouvaient être à charge et à décharge. En effet, vu sous cet angle-là, Ces images sont choquantes, l'action de feu, on ne voit pas vraiment si la légitime défense peut être retenue, on ne sait pas si l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure peut être appliqué. Voilà, on a tellement peu de choses pour accabler au vu de ces seuls éléments. Donc pour l'instant, je reviens sur Sandra Buisson vient de dire l'enquête est en cours, tout ce que ça peut engendrer derrière, soyons prudents et attendons de voir les premiers éléments.
Mais quand vous entendez les différentes réactions politiques, que ce soit à gauche ou que ça vienne d'ailleurs de l'exécutif, vous dites ça y est, la messe est dite, on a déjà fait le procès de ce policier. Ça, c'est votre instinct de policier ?
Oui, ça m'inquiète un peu plus. Et on parlait tout à l'heure de la séparation des pouvoirs. Pour l'instant, nous avons les services de police et de police judiciaire et l'IGPN qui travaillent dessus. Et les magistrats attendent. Nous sommes pour l'instant dans une enquête de flagrance. Bien entendu, Sandra Buisson l'a bien dit, nous allons certainement nous orienter vers l'ouverture d'une information judiciaire. Nous n'en sommes qu'au tout début. Donc, ces premiers éléments de jugement, parce que je vais y aller tout de suite sur ce mot-là, de jugement sur un tribunal médiatique politique ou tout ce qu'on peut lire sur Twitter, les réseaux sociaux, ça m'embête au premier lieu.
Judith Vintraube, votre réaction, ça va dans le même sens, il faut temporiser un peu sur ce qui se passe là.
Je trouve les mots du président de la République absolument ahurissants et ceux de la première ministre pareil. Inexplicable d'abord. Emmanuel Macron dit c'est inexplicable. À quoi sert l'enquête ? L'enquête précisément devra établir ce qui s'est passé avant cette vidéo, ce qui s'est passé pendant qu'on l'a filmé de cette façon-là, s'il y avait ou pas danger pour un policier ou pour une tierce personne, puisque je rappelle que c'est ça les conditions d'usage de l'arme à feu. Donc on ne sait rien, il y a une enquête, si c'est inexplicable, ben, pas la peine de faire l'enquête. En fait, sous couvert d'apaisement, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne rajoutent de l'huile sur le feu. Parce qu'évidemment, leurs paroles donnent du crédit à tous les discours de ceux qui expliquent que la police tue, que c'est un problème systémique en France, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, la totalité de la France insoumise, une partie du Parti socialiste, la quasi-totalité des écologistes ou la Ligue des droits de l'homme qui, elle aussi, reprend un refus d'obtempérer ne vaut pas la peine de mort. La peine de mort, c'est quelque chose de très particulier. La peine de mort, ça veut dire que quelqu'un a décidé d'une peine de mort. Quelqu'un a décidé d'ôter la vie. On n'est pas du tout dans cette configuration-là.
Alors, je vous propose, si vous avez raté la séquence, d'y revenir. C'était en fin de matinée. Emmanuel Macron était interrogé lors de son déplacement à Marseille. Et c'est Yoann Uzaï qui était sur place pour CNews.
C'est ici, depuis Marseille, où il était en déplacement depuis 3 jours, que le président de la République a suivi les événements à Nanterre. Ce matin, en Conseil des ministres délocalisé, en visioconférence depuis la préfecture de la ville, Emmanuel Macron et l'ensemble du gouvernement ont dit leur émotion face à cette situation et à la mort de ce jeune homme de 17 ans. Interrogé ensuite par les journalistes, le président de la République a d'abord refusé de commenter la vidéo. Il a appelé la justice à faire son travail sereinement et rapidement, afin d'établir les responsabilités.
La justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec évidemment célérité et dans le calme que ce travail requiert et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que évidemment nous soyons tous informés que la justice passe.
Appel au calme donc de la part du président de la République, appel au calme également de la part de Benoît Payan, le maire de Marseille, qui a reçu Emmanuel Macron ici depuis lundi, interrogé sur le fait de savoir s'il craignait une contagion des violences qui ont gagné Nanterre la nuit dernière. Benoît Payan a répondu qu'il ne les craignait pas, mais qu'il fallait tout faire pour les éviter. Benoît Payan, le maire de la ville, qui, comme Emmanuel Macron, appelle lui aussi les enquêteurs et la justice à travailler le plus rapidement possible afin de faire toute la lumière pour, espère-t-il, comme le président de la République, apaiser les tensions.
Jonathan Sixou, je vais vous faire réagir à deux tweets. Dans la foulée, Emmanuel Macron a tweeté ceci, je propose d'en prendre connaissance. Nous partageons l'émotion et la peine de la famille et des proches. Je veux leur dire notre solidarité et l'affection de la nation. Justice immédiatement saisie. Bon, ça, ils le rappellent. Nos policiers et nos gendarmes s'engagent pour nous protéger et servir la République. Je les remercie chaque jour. Ils le font dans un cadre déontologique qui doit être respecté. C'est à la justice d'établir la vérité, d'assigner la responsabilité. Je souhaite que ce travail puisse aboutir rapidement dans un tel contexte dont Nanterre et la nation ont besoin. C'est de respect et de calme. On sent qu'il a un petit peu édulcoré quand même son propos. Hein. Sans doute qu'il a pris la mesure aussi de ce qu'il avait dit à chaud devant les devant les micros. Mais aussitôt, ça a suscité cette réaction de l'avocat, d'un des avocats, parce qu'ils ont plusieurs engagés par la famille. Regardez, c'est Yacine Bouzrou qui, en l'occurrence, tweet ceci. « Non, monsieur le Président, aucune justice indépendante et impartiale n'a été saisie. À ce jour, seul le proc de la République de Nanterre, qui n'est pas un magistrat indépendant, dirige l'enquête sur des policiers de son propre département. » Petite réaction, là aussi, à chaud. Et puis, je me tournerai vers l'expert en la matière. Jonathan.
Pour commencer avec le dernier tweet, l'avocat de la victime, de la famille de la victime, fait son boulot d'avocat. On ne va pas le lui reprocher. En revanche, c'est beaucoup plus embêtant concernant Emmanuel Macron. C'est un rétropédalage qui est assez gros. Puisque les propos du chef de l'État qui ont été filmés, c'est sa personne qui s'exprime dans son entier, c'est donc nettement plus fort que quelques lignes sur un tweet, suit pas à pas l'emballement émotionnel qui peut être par ailleurs compris. Mais je rejoins exactement ce que disait Judith il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un jeune homme qui meurt sous les balles d'un policier, mais de l'autre, on ne laisse aucunement le temps de la justice, de l'enquête, se faire. Oui, c'est pas simple de lier émotion et temps judiciaire, mais c'est aussi la grandeur de la justice. Il faut laisser faire, et les propos aussi bien d'Elisabeth Borne au Sénat que d'Emmanuel Macron ne font qu'ajouter de l'huile sur le feu. Je n'y sens aucune distance, ni sérénité, ni hauteur de vue qui permettrait d'amener un peu de calme, parce qu'on en parlera sûrement tout à l'heure, mais quand on voit avec quelle facilité autant de villes peuvent s'embraser d'un coup, il y a de quoi être franchement inquiet.
Yann Bastia, revoyons les termes exacts de la réponse de l'avocat, parce que ça mérite quand même une petite explication de votre part. On aimerait comprendre s'il dit vrai ou s'il est complètement à côté de la plaque, pourquoi pas. À ce jour, seul le procureur de la République de Nanterre, qui n'est pas un magistrat indépendant, dirige l'enquête sur des policiers de son propre département. Est-ce que, à votre sens, en décrivant ça, il sème déjà le trouble sur le fait que la justice ne sera pas rendue adéquatement ?
Ce sont des propos totalement lunaires, hors sol. Il remet en cause les fondements de notre état de droit, de notre justice. Il remet en cause la probité du procureur de la République de Nanterre, et puis, de façon subliminale, également les policiers. Et c'est l'IGPN qui est saisi. Nous sommes dans un état de droit. L'enquête va se faire pour le mieux. J'en doute pas un instant. Je trouve ces propos particulièrement choquants. Et comme vous le dites, jette le doute sur le début d'enquête.
Sandra, peut-être un élément d'explication.
Alors, ces propos arrivent dans la suite des accusations qui ont été portées hier par les trois avocats de la famille de Naël à l'encontre de la façon dont le procureur a ouvert cette enquête. Il a ouvert cette enquête concernant le refus d'obtempérer pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Et pour l'avocat de la famille de Naël, il l'a fait simplement en se basant sur les premières déclarations des policiers qui ont été orales, qui disaient que le véhicule avait foncé sur un policier. Ce qui, effectivement, on l'a vu sur la vidéo, n'est pas le cas. Concrètement, il ne fonce pas sur le policier est sur le côté. Et donc, l'avocat considère que, ce faisant, en ouvrant cette enquête pour ce chef, il valide cette théorie qu'il qualifie de mensonge des policiers. Et donc, pour lui, le procureur n'est pas indépendant et n'est pas objectif, et il a demandé la dépaysation du dossier, le dépaysement.
Qu'il a une chance d'obtenir ?
Pas dans l'immédiat, sur l'instruction peut-être éventuellement, mais ça sera un juge du siège. Dans l'immédiat, non, il ne l'obtiendra certainement pas. Et de toute façon, la qualification des faits reste à l'appréciation du procureur de la République. Ces faits peuvent être requalifiés à tout moment, en fonction des éléments recueillis, et par les enquêteurs. Et on est sûr. Juste, je tiens à rappeler que notre collègue est quand même placé en garde à vue pour des faits d'homicide volontaire. On a souvent les homicides involontaires ayant causé la mort sans intention de la donner.
Il n'est pas reparti libre.
Là, il est placé en garde à vue.
Pour meurtre. Oui.
Pour homicide volontaire, ce n'est pas anodin.
Je vous propose de revenir à Nanterre pour voir un peu, prendre le pouls un peu de l'atmosphère qui y règne avec une de nos équipes de reporters. Bonjour Vincent, vous êtes sur place. Est-ce que l'émotion est toujours aussi vive? On sait qu'il y a, et on y reviendra aussi largement, un appel à une marche blanche demain à la demande de la famille, de la maman de Naël. Mais on sait aussi que la nuit a été explosive, émaillée de forts incidents, d'ailleurs dans des communes limitrophes et d'autres départements d'Île-de-France, avec un certain nombre d'interpellations. Qu'en est-il là en milieu d'après-midi ?
Pour le moment, la vie suit son cours, j'allais dire, ici à Nanterre depuis le début d'après-midi. C'est vrai que nous sommes allés dans les cités Zelina et Pablo Picasso. C'est le cœur des affrontements hier soir. Et c'est vrai que pour le moment, eh bien, la vie suit son cours comme si de rien n'était. J'allais dire à quelques détails près néanmoins. C'est-à-dire qu'il y a toujours des bris de verre sur la route dans ces cités-là. Il y a toujours des abribus qui sont détruits. Il y a des cadavres de voitures calcinées qui ont été incendiées hier soir et des restes de barrages également sur la chaussée, barrages qui ont été incendiés hier soir pour tenter eh bien de faire ralentir l'intervention des forces de l'ordre, des barrages donc qui sont toujours plus ou moins érigés dans ces cités-là. À tel point qu'il est parfois difficile effectivement eh bien de circuler. Néanmoins, quand nous y étions tout à l'heure avec Solène Boulan en début d'après-midi, les services de la municipalité de Nanterre étaient en train de nettoyer justement les rues, peut-être en prévention d'une seconde nuit de tension ici à Nanterre. Enfin, hier soir, il y avait 350 forces de l'ordre qui étaient déployées selon la préfecture de police. On en attend 2000 ce soir dans les Hauts-de-Seine, particulièrement ici à Nanterre, puisque c'est le cœur des tensions. Pour le moment, nous n'avons pas vu de force de police, ni dans les cités, ni autour de la mairie où on se trouve.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et merci donc à Solène Boulan qui vous accompagne. Et puis la famille de l'adolescent, je le rappelle, porte plainte et pointe les mensonges du fonctionnaire de police. Elle a d'ailleurs engagé trois avocats. Écoutez, l'un d'entre eux, c'est sans doute le plus célèbre, Yacine Bouzereau.
Nous avons une vidéo qui est vraiment qui montre avec évidence que le tir n'est pas réglementaire. On a donc un policier qui a décidé d'enlever la vie à un jeune homme pour un simple refus d'obtempérer. Je dis simple parce que le refus d'obtempérer est puni d'une peine d'emprisonnement, mais n'est pas puni par la mort. Donc le policier n'avait pas à tirer à ce moment-là. Et nous avons en plus des policiers qui ont menti, manifestement sur procès-verbal, en affirmant que le véhicule a tenté de les percuter, ce qui est faux. Donc on a des policiers, un policier en tous les cas, menteur. Meurtrier, ça fait beaucoup. Nous espérons donc que la justice en tire toutes les conséquences et que la loi soit appliquée strictement.
Judith Vintrop, c'est l'avocat de la famille Traoré.
Oui.
Donc il y a eu immédiatement
une
prise en main qui s'est
Il y a eu une prise en main de cette malheureuse mère. Évidemment que c'est terrible et tragique de perdre un enfant dans n'importe quelle condition, mais spécialement dans ces conditions-là. On comprend tout à fait le choc et la peine incommensurable qu'elle ressent. Mais là, elle est instrumentalisée par des gens qui savent faire, qui mènent depuis de longues dates un combat contre les flics. C'est vraiment leur seul et unique objectif. Dire que la police française est violente, raciste, c'est le combat de la sœur d'Adama Traoré. Et elle a mis la main sur cette mère endeuillée. Et on assiste à ça, sans d'ailleurs que beaucoup de voix s'élèvent pour dénoncer une instrumentalisation qu'on dénonce beaucoup plus vite quand il s'agit par exemple du meurtre de la petite Lola.
Alors je vous propose d'écouter cette vidéo de la mère de Naël qui appelle à une marche blanche et vous allez voir, il y a une voix, une intervention à un moment, au moment où elle appelle à cette marche et quelqu'un qui lui rappelle une précision sémantique.
Je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous.
C'est la marche de la révolte, même.
On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Merzouk Naël. On sera tous là. Merci.
La voix d'Assad. Marche de la révolte. Donc c'est pas une marche blanche, c'est une marche blanche ou c'est une marche de la révolte?
Là c'est clairement un appel à la violence et au débordement. Révolte veut bien dire ce que ça veut dire, c'est très malheureux. On comprend encore une fois la douleur d'une mère qui a perdu son fils, mais on a vu dans le passé des parents nettement plus dignes appelant à une marche blanche, appelant à des rassemblements pacifiques pour montrer la sérénité de leur position. Là, on voit qu'on s'achemine vers, une nouvelle fois, des combats de rue, etc. Rappelons tout de même, encore une fois, il est nullement question de légitimer la mort d'un adolescent de 17 ans, mais ce petit ange, comme nous dit M. Mbappé dans son tweet ce matin, à 17 ans, était déjà connu des services de police pour de nombreux refus d'obtempérer. Ça n'est pas un détail.
Yann Bastier, est-ce qu'il faut s'en...
Juste un mot, moi je ne dirais pas qu'elle n'est pas digne. Parce que dans sa situation, on ne peut pas dire que sa position n'est pas digne. Elle est instrumentalisée. On sent qu'elle est complètement sous la coupe de gens qui veulent en faire un instrument au service d'une cause.
Alors, je propose de nous interrompre parce qu'on est un petit peu pris par le temps, mais on y reviendra bien sûr très largement dans la suite de cette édition. Petite pause et on se retrouve aussi pour parler de cette petite phrase qui n'est pas passée inaperçue de la part d'Emmanuel Macron lorsqu'il évoque une remise à plat du calendrier scolaire, entendre le raccourcissement des grandes vacances d'été. 90 minutes info, la suite revient juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. L'Assemblée nationale rend hommage au jeune Naël tué hier à Nanterre. Une minute de silence a été observée. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Au même moment, au Sénat, Elisabeth Borne était appelée à s'exprimer sur ce drame lors des questions au gouvernement. Elle souhaite que la justice, comme le président de la République, que justice se fasse. Elle pointe aussi du doigt le devoir d'exemplarité de la police. On l'écoute.
Aujourd'hui, il y a un choc, un deuil, une colère. C'est à la justice d'y répondre. Je connais l'engagement de nos policiers et de nos gendarmes au quotidien sur le terrain. Ils savent que porter l'uniforme, c'est répondre à un devoir, celui de l'exemplarité. Les images choquantes diffusées hier montrent une intervention qui ne semble manifestement pas conforme aux règles d'engagement de nos forces de l'ordre. À mon tour, à nouveau, avec tout mon gouvernement, je veux adresser mes condoléances à la famille et aux proches de Naël et leur dire toute ma solidarité. La justice est saisie. Elle avance, l'auteur du coup de feu est en garde à vue et je souhaite comme chacun que la vérité puisse être faite au plus vite.
Retour à présent sur l'agression en août dernier d'une femme de 89 ans à Cannes. Elle avait été frappée par derrière et puis volée. Les deux mineurs reconnus coupables viennent d'être condamnés à 12 mois de sursis probatoire et vont donc pouvoir rentrer chez eux. Depuis 10 mois, ils étaient incarcérés dans un centre éducatif. Écoutez les réactions des avocats juste après l'audience.
Pour nous, ce n'est pas satisfaisant, clairement. Voilà, ce n'est pas satisfaisant. Maintenant, on peut comprendre que voilà, c'est des jeunes mineurs qui avaient un casier judiciaire qui n'avait pas de traces de condamnation. Mais on a souvent dit lors de l'audience que c'était parce que le dossier était médiatique qu'ils avaient été en CEF pendant tant de temps, etc. Alors que finalement, le dossier n'a été médiatique ou médiatisé que parce que les faits avaient été graves et qu'ils avaient été filmés.
Très satisfaite de cette décision. Vous voyez, on a toujours eu peur dans ce dossier de la médiatisation. On a eu peur des journalistes, le fait que le tribunal puisse être influencé, que les réquisitions même du parquet auraient pu être beaucoup plus importantes. Ça n'a pas été le cas. C'est un sursis probatoire qui a été proposé par le parquet. C'est une peine de 12 mois d'emprisonnement avec un sursis probatoire qui a été prononcé. C'est une peine que je considère comme juste.
Dans l'actualité également, début aujourd'hui du procès de l'artiste russe Piotr Pavlensky et de sa compagne Alexandra de Tadeo. Souvenez-vous, il y a 3 ans, l'artiste avait diffusé des vidéos intimes de l'ex-ténor de la majorité, Benjamin Griveaux. Noémie Schulz, bonjour. Vous suivez ce procès pour CNews et ce matin, l'audience s'est ouverte avec l'interrogatoire d'Alexandra de Tadeo.
Oui, c'est elle, la première qui est appelée à la barre. Elle s'avance vêtue d'une robe longue à paillettes assez incongrue dans une enceinte judiciaire. Elle pose devant elle le livre qu'elle vient de publier. Elle accepte de répondre aux questions du tribunal. Non, elle n'a pas à chercher à piéger l'homme politique. Oui, c'est lui qui l'a contactée en premier. Pourquoi avoir sauvegardé les vidéos, tente de comprendre les magistrates. C'était pour me protéger, la relation était déséquilibrée. Qu'a-t-elle pensé de la diffusion de ces vidéos par Piotr Pavlensky? J'ai eu peur, mais je peux comprendre, soutenir, car c'est un très grand artiste contemporain. La jeune femme se rassoit quand Richard Malka, l'avocat de Benjamin Griveaux, prend la parole. Avez-vous eu une seule pensée pour le mal que la diffusion de ces vidéos a pu faire à Benjamin Griveaux, mais aussi aux victimes collatérales, ses parents, ses enfants, son épouse? Y avez-vous seulement pensé un instant? Alexandra de Tadeo regarde son compagnon mais ne répond pas. Piotr Pavlensky, lui, a pris la parole brièvement à l'ouverture de l'audience pour faire une déclaration assez incompréhensible sur son art et la justice conservatrice. Agacé d'être coupé par la présidente du tribunal, il fait valoir son droit au silence le reste de l'audience. Une audience qui se poursuit avec des témoins totalement surréalistes. À l'instant, une comédienne est en train de déclamer des vers de Tartuffe dans la salle d'audience.
Merci beaucoup Noémie Schulz. Et puis coup d'envoi aujourd'hui des soldes d'été. Même si on est loin du grand rush des années précédentes, c'est parti pour 4 semaines avec en plus cette année le facteur inflation. Alors que pensez-vous des soldes, nous sommes allés vous poser la question.
Il y a des choses à des prix intéressants, mais il faut que ça plaise et il faut que ça aille aussi. Donc voilà.
Bien souvent, bah, les commerçants, quand on arrive et qu'on veut des soldes, il n'y a pas forcément la taille, il n'y a pas forcément la couleur, etc.
C'est encore élevé. Les belles choses restent quand même chères. Malgré les 20%, les 30%, ça reste quand même élevé.
Il y a une boutique qui va fermer, donc ils ont dit qu'il y avait des gros rabais. Donc on y va et on verra ce qu'on trouve de sympa et voilà.
Et puis la chronique sport pour terminer avec du breakdance, nouvelle discipline, officiellement programmée pour les prochains Jeux Olympiques et la qualification du français B-Boy Danny.
Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
B-Boy Danny a validé son billet pour les Jeux Olympiques. Le Français a remporté hier la médaille d'or dans l'épreuve de breaking aux Jeux Européens. Un titre qui permet au danseur de 33 ans de devenir le premier qualifié pour les JO de l'histoire de la discipline.
Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue bien sûr sur CNews. Vous retrouvez Nelly Denac pour la suite de 90 Minutes Info.
Et je vous remercie, Mickaël, Dorian. À demain pour un nouveau JT en votre compagnie. C'est une petite phrase à Marseille qui a tout de suite intrigué sur le temps scolaire, le temps passé à l'école, les vacances, les sacro-saintes vacances scolaires. Des vacances trop longues du point de vue d'Emmanuel Macron. Je propose de l'écouter.
Moi, je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année, qui est une des autres grandes hypocrisies françaises. Parce que aujourd'hui, moi je suis face à des enfants, avec le nouveau bac, j'ai demandé au ministre de revoir les choses pour améliorer les choses qui ne vont pas. Ouais, on est à peu près du site, on a maintenant à mon retour. Mais au-delà de ça, tous ceux qui ont des enfants le savent, vos collégiens, quand est-ce qu'ils ont commencé leurs vacances? Vos enfants en primaire, etc. Bon. Or, plus tôt ils partent en vacances. On a aujourd'hui des enfants qui ont 2 mois et demi parfois de vacances. Quelques-uns presque 3 mois de vacances. Mais on doit concerter ça, on doit le travailler. Pas pour l'année prochaine, c'est un peu juste. Mais il faut repenser ce temps dans l'année.
Alors Élodie Huchard, là quand même, il ne dit pas grand-chose sur ses intentions réelles, sur la manière, sur ce qu'il a en tête, sur la manière dont il veut le mettre en œuvre. Mais moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'il y a quelques incohérences par rapport à d'autres prises de parole qu'il a eues sur la même question hier, toujours à Marseille, devant des interlocuteurs, où il disait... que lui était plutôt favorable à un 8h, 18h, par exemple, au collège. Donc, les tenants du raccourcissement des grandes vacances sont plutôt favorables à ce qu'on raccourcisse les journées.
Oui, parce qu'en fait, on comprend la logique du président de la République, c'est de se dire il vaut mieux que ses enfants soient dans leurs établissements scolaires plutôt qu'ils soient dans des quartiers, etc., qui n'aient pas la possibilité de partir en vacances. Mais si vous compilez à la fois le fait d'avoir des journées plus longue, donc de 8h à 18h, et qu'en plus vous avez des vacances scolaires plus courtes, le temps scolaire finalement s'allonge à la fois dans l'année de manière globale et chaque journée. Ce qui veut dire que derrière, évidemment, il faut pouvoir embaucher des enseignants. Et parce que alors, sauf si vous demandez aux enseignants de travailler plus longtemps, mais alors là, bon courage. Et si vous voulez embaucher des enseignants, on sait déjà combien c'est compliqué. Et finalement, la question, c'est jusqu'où peut aller cette réflexion du président de la République? Parce que finalement, c'est dire les parents sont défaillants, parfois ils n'arrivent pas à gérer leurs enfants, donc l'État s'en occupe, oui, mais à un moment donné ou à un autre, soit le soir, soit pendant un mois et demi, de toute façon, ces enfants seront de nouveau dans leur famille, dans les quartiers. Et donc, même si on comprend la logique, on ne comprend pas très bien, la mise en place. Et si on les tire du bout à bout, c'est dire, bah, les enfants, on va les prendre à 2 ans à leur famille, on les rendra à 18 ans quand ils sont éduqués, et ça ira mieux. Donc, il y a à la fois un petit paradoxe et surtout une logique qui, si on veut l'amener vraiment à son terme, est un peu compliquée.
C'est intéressant quand même, non?
Comme tout ça est vrai. Je rajouterais qu'à ce stade... faire de l'éducation qui, si je ne m'abuse, était déjà une priorité du premier quinquennat d'Emmanuel Macron.
Dédoublement des classes de CP, des choses comme ça. Quoi.
C'était l'éducation. Et de dire maintenant, si on faisait un grand débat, formidable, et si vous faisiez des propositions dignes de ce nom et cohérentes, et en gardant un cap tout du long, au lieu d'enlever des heures de maths, de rajouter des heures de maths, d'enlever des heures de français, de rajouter des heures de français. Dans ce domaine comme dans d'autres, mais ce domaine est a un enjeu crucial pour l'avenir de ce pays. On attend d'Emmanuel Macron un projet, pas l'ouverture d'une discussion à bâton rompu avec des citoyens. C'est au-delà des incohérences que vous soulignez à juste titre, c'est ça qui me
choque. Alors, du côté de ces ministres, on n'a pas beaucoup plus de précisions, pas de projet. On sent bien que ça navigue pas mal à vue. Dans un instant, on va faire réagir un responsable de syndicat enseignant. Mais d'abord, Olivier Véran, sur cette question des vacances. Évidemment, il y avait ce conseil des ministres en visioconférence et à la sortie, voici ce qu'il a dit.
La France est un pays dans lequel les vacances estivales sont parmi les plus longues. Et parfois, vous avez des enfants qui sont déscolarisés pendant 2 mois et demi. Beaucoup, trop d'enfants dans notre pays, hélas, ne partent pas en vacances et donc peuvent être assignés à la maison pendant plusieurs mois, au cours desquels ils n'apprennent pas, perdent parfois certains réflexes d'apprentissage, ce qui nuit à la consolidation des acquis de l'enseignement. Et à contrario, et le corollaire de cela, c'est que la France est aussi un pays au sein duquel le temps de travail journalier hebdomadaire pendant l'année scolaire est très élevé pour les enfants, et ce qui peut aussi entraîner de la fatigue.
Bonjour Maxime Repair, vous êtes professeur d'histoire géo, vous êtes aussi vice-président national du SNALC, c'est un syndicat enseignant pour les lycées et les collèges. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est une fausse bonne idée? On va revenir sur nos avantages acquis du point de vue des profs, parce qu'à un moment donné, c'est là aussi qu'il va falloir se faire la réflexion, au-delà de l'aspect éducatif stricto sensu.
Ben écoutez, oui, effectivement, nous émettons de fortes réserves par rapport à cette déclaration, qui a l'air d'être un énième coup de com', comme on a eu celui de la Première ministre il y a quelques jours sur la certification écolo au collège. Je tiens à préciser plusieurs choses. Il y a déjà un groupe de travail qui porte justement sur la question des vacances scolaires, qui a lieu actuellement, mais ça, visiblement, le président de la République l'ignorait. La deuxième chose, c'est que la France n'est pas un ovni en termes de durée de congés scolaires par rapport à ses voisins européens. Le pays où il y a le plus de vacances scolaires, par exemple, c'est l'Irlande. Et la France n'est pas dans le groupe de tête, quoi qu'on en dise, surtout pour ce qui est question des vacances d'été. Et puis enfin, hélas, ça peut paraître anodin et c'est pourtant très important, se pose en troisième point la question du bâti scolaire. Je rappelle qu'il y a de gros problèmes en France dans nos structures scolaires, que ce soit dans les écoles, collèges et lycées, que ce soit en termes d'isolation, pour ne citer que cet exemple-là, que nous avons des étés de plus en plus chauds, qu'on a eu par le passé, je le rappelle, des décalages d'épreuves, que ce soit au niveau du brevet ou du bac, justement dû à la chaleur, dû aux fortes chaleurs. Et de ce constat-là, je ne crois pas qu'il soit pertinent de rajouter des cours supplémentaires en juillet et en août, tenant compte de cet aspect-là. Voilà, donc pour toutes ces raisons, il me semble inutile de suivre ce type de déclaration, si vous voulez.
Bon, c'est aussi, on ne va pas se mentir quand même, on va se parler vrai à un moment, les profs ne vont pas renier sur leur semaine de vacances, alors que franchement, on va aussi leur rendre justice. Ils sont pas. Non, mais attendez, je vais pas les accabler non plus. Ils sont pas super bien payés. Ça fait partie des choses qui incitent aussi à faire ce métier. C'est une compensation comme une autre.
Il y a un lien aussi avec la question de l'attractivité du métier. Je voulais juste rajouter un point quand même très rapide pour que les téléspectateurs comprennent un petit peu la réalité du métier. C'est que un prof doit tant d'heures hebdomadaires. Et il faut savoir que généralement, il est présent dans son établissement du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire qu'il a des heures de trou entre qui ne sont pas comptabilisées dans ses horaires, ses obligations de service. Donc le prof, il est là du matin jusqu'au soir. Effectivement, la question des vacances scolaires, eh bien, ça peut aussi faire partie effectivement de la question de l'attractivité du métier. C'est une réalité.
Alors, vous restez avec nous. Je voudrais juste vous rappeler, pour rafraîchir un petit peu la mémoire, il y a eu ce débat récurrent dans l'éducation nationale. Beaucoup de partis, dont certains qui sont parvenus au pouvoir et à gauche, s'y sont essayés. Force est de constater qu'ils se sont tous cassés les dents. Adrien Spiteri.
C'était en 2011. Alors ministre de l'Éducation, dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, Luc Chatel évoque déjà la réduction des vacances scolaires.
L'ensemble des acteurs nous disent aujourd'hui qu'il faut mieux rééquilibrer. Donc il faut sans doute travailler plus de journées mieux réparties sur l'ensemble de l'année. L'hypothèse de zone pour les vacances d'été peut être une réponse à l'inquiétude que nous manifestons.
2 ans plus tard, François Hollande est élu et c'est au tour du socialiste Vincent Peillon d'évoquer la réforme.
Dans le calendrier de la suite, je repose la question de la reconquête du temps scolaire sur l'année. Et donc, nous allons poursuivre la discussion sur l'année scolaire.
Une volonté également affichée par d'autres partis politiques à gauche. La mesure faisait partie du programme de Yannick Jadot en 2022. Avant l'élection présidentielle, le candidat d'Europe Écologie Les Verts s'expliquait dans un entretien accordé à La Croix.
Je n'exclus pas de réduire la durée des vacances. Tous les pays qui obtiennent de meilleurs résultats scolaires que nous ont moins de congés scolaires.
Plus récemment, c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui relançait le débat. Raccourcir les vacances d'été permettrait selon lui de lutter contre les inégalités.
C'est pas propre à la droite et au centre, Jonathan Sixou. Ils n'y sont jamais arrivés, hein. On précise parce que le sujet ne le dit pas forcément. Enfin, il fait un petit récap, mais ils n'y sont jamais arrivés. Bon, il y a un corporatisme quand même assez fort. On imagine que les profs seraient dans la rue si on y touchait, pas seulement à la marge, mais si on voulait refondre le système. Vous n'y croyez pas une seconde ?
Moi, ce dont j'aimerais croire, ce en quoi j'aimerais croire, c'est l'efficacité du temps scolaire. Et que les enfants soient à l'école et qu'on sache qu'en étant à l'école 5 heures ou 8 heures par jour, il y ait un résultat scolaire, un enseignement, une instruction qui soit concrète. Or, on voit que des vacances longues, des vacances courtes, la réalité de l'enseignement, de l'instruction publique, elle, ne suit pas forcément. Ensuite, l'argument d'Olivier Véran était un peu spécieux. Beaucoup d'enfants ne partent pas en vacances, donc on va réduire les vacances. C'est un argument un peu curieux. Votre intervenant, le professeur d'histoire-géo que vous avez interviewé...
Et qui est toujours là, hein, on va revenir vers lui.
...pointe une réalité. Les conditions matérielles, de bien souvent, dans de nombreux établissements, qui s'avèrent parfois franchement indignes, alors même que l'éducation nationale, sauf erreur de ma part, est le premier poste de dépense des finances publiques. Il y a là des problèmes d'investissement en la matière. Le salaire des profs est effectivement absolument pas attractif pour...
Il faut bien leur donner une raison de vouloir embrasser cette profession.
Bah, évidemment. Et on voit bien qu'il y a une crise des vocations liée principalement à un problème matériel de la profession.
Maxime Repère, est-ce qu'il y a quand même quelque chose à faire ? Est-ce qu'on peut quand même trouver des solutions ? Est-ce qu'à défaut de s'atteler, pour les raisons aussi que vous citez sur le climat, bon, enfin bref, vous avez vos arguments, sur l'été, est-ce qu'on ne pourrait pas s'atteler aux petites vacances, les vacances intermédiaires dont beaucoup disent, elles sont quand même hyper rapprochées, elles durent longtemps, les parents savent souvent pas quoi faire des enfants à ce moment-là. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose à faire et à revoir de ce point de vue-là ?
Écoutez, il faut réfléchir en termes de volume horaire d'enseignement sur une année. Et on se rend très vite compte que, qu'en France, on a un volume qui est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. On a, par exemple, un volume horaire qui est, d'enseignement qui est supérieur à celui de l'Allemagne. Le président parlait des vacances d'été. Je tiens quand même à préciser une chose, hein, c'est que ces vacances d'été, ça représente 8,2 semaines de congés et que si on compte juste cette période estivale, la France se situe à la 29e position des 38 pays de l'OCDE, soit dans la moyenne basse des congés d'été. Donc c'est pour ça, cette déclaration qui a été faite sur les vacances scolaires, pour moi, elle est incohérente avec la réalité, tout simplement.
Alors, Judith aimerait réagir, justement, oui, pour vous contredire.
Oui, non, juste un point. Vous avez raison, évidemment, sur les congés d'été, mais pas sur le reste de l'année. La France se caractérise par de nombreuses vacances, et comme le disait Nelly, à intervalles plutôt courts. C'est ça qui la distingue plutôt de ses voisins. Alors, l'étalement, on a vu dans le sujet plusieurs ministres qui abordaient le problème par le biais de l'étalement des jours de scolarité le long de l'année, me semble être un an plus pertinent que qui travaille le plus en prenant la période précisément.
C'est plus une question de vacances. En fait.
C'est oui, plus c'est une question de rythme, de répartition, me semble-t-il.
Mm-hmm. Oui, alors, il faut aussi considérer, si vous voulez, le volume d'heures.
Oui, mais il ne dit pas grand-chose, justement. Il ne dit pas grand-chose, le volume d'heures. Et en termes de volume pur, la France est à peu près dans la moyenne. Elle est très légèrement au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de l'Irlande, qui est le pays champion des congés scolaires. J'aurais pu prendre celui de la Suisse, qui est champion dans l'autre sens.
Alors, on va aussi laisser la parole à ceux qui sont concernés, mais de l'autre côté, c'est-à-dire les parents, les commerçants aussi, parce que ça ne serait pas sans implication et sans risque, peut-être même sur le tourisme, sur le secteur du tourisme, dont on dit, Éric de Rydmaten, année après année, qu'il souffre. Réduire les vacances scolaires, on imagine bien à quel point ça serait compliqué pour les saisonniers de fonctionner et d'avoir le même chiffre d'affaires.
Oui, il y a vraiment un vrai lobbying hein, sur les vacances scolaires. D'ailleurs, si on se replonge dans l'histoire, je vais vous donner deux dates. 1882, Jules Ferry. Le premier, il dit, maintenant, on va mettre le poids économique de la France dans les congés scolaires, puisqu'à ce moment-là, l'école devient obligatoire. Et il ne faut pas oublier qu'autrefois, les enfants, ils allaient faire les vendanges, hein, ils allaient faire les récoltes. Quand ils ont commencé à aller à l'école, bah, on s'est dit, oui, mais maintenant, ça va, il faut qu'on prenne en compte le critère économique. Et donc, à partir de 1882, le poids du secteur économique rentre dans la donnée française, hein, dans la donnée nationale. Deuxième date, 1960. Là, c'est les dates qui sont un peu aujourd'hui. La rentrée scolaire a lieu le 14 septembre. Hein, c'est-à-dire que sinon, ça durerait beaucoup plus. Et bien, à partir du 14 septembre, les enfants vous rentreront en classe. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école, je rentrais le 14 septembre. C'est la date de mon anniversaire. Donc, je me souviens, c'était jamais drôle parce que c'était. c'est facile d'arrêter.
C'est bon, ça vous a un petit peu marqué. Ouais.
Sur le plan économique, 6% du PIB. C'est ça ce que pèse aujourd'hui quand les Français qui peuvent partir en vacances le font. Eh bien, ça représente 6% de la richesse créée par la France. 6% du PIB. Donc, ça n'est pas rien. Et si vous rentrez encore dans le détail, les vacances d'hiver. Qui, alors là, c'est vraiment depuis des années majoritairement important pour les caisses de l'État, c'est 200 000 emplois. Et c'est pour ça que vous avez les académies qui se disputent les dates de départ en vacances pour février, puis pour Pâques. D'ailleurs, cette année, rappelez-vous, pour ceux qui habitent Paris, Créteil, Versailles, l'Académie C, eh bien, ils sont rentrés de vacances de Pâques le 10 mai. Vous vous rendez compte ? Le Pâques, le 10 mai. Alors, maintenant, ça ne plus les vacances de Pâques, maintenant, ça s'appelle les vacances de printemps. Mais c'est pour vous dire que les sports d'hiver ont perdu la région parisienne sur les vacances de printemps, ce qui n'était pas facile, alors qu'il y avait beaucoup de neige.
On a bien compris que ça déphaserait quand même la société, quoi.
Ça déphaserait la société. Ouais. Et donc, vous avez vu le tableau en question. Hein. Maintenant, on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est très, très juste. Hein. En France, on avait tout à l'heure, dans l'émission juste avant, chez Barbara Klein, un chef d'entreprise, qui disait qu'en fait, en France, il y a trop d'heures aujourd'hui d'écoles, de cours. Il y en a 9000, vous allez voir les chiffres. Alors qu'en Europe, c'est 7700 par an. Donc, trop d'heures de cours dans pas assez de jours de classe. 162 jours, vous avez vu, pour 9000 heures de cours. Alors que la moyenne européenne, c'est 190 heures. Donc, il y a plus d'heures de cours. 190 jours. Donc, c'est plus étalé pour 7700 heures. En fait, le problème, il est là, c'est qu'on n'étale pas suffisamment. Il y a trop de jours de vacances, finalement, trop de jours de vacances et qui sont mal répartis. C'est vraiment le problème, il est là.
Je vais juste dire un petit incise. Hier, j'étais à la chorale, sans pardon, mais c'est du vécu, à la chorale de mon fils. Bon, c'est la fin de l'année scolaire. Il y avait plein de gamins qui chantaient. Ils étaient, je ne sais pas, une quarantaine. J'en ai surpris une quinzaine en train de bailler. C'était 18h30, certes. Ouais. Ils étaient crevés, ces gosses, après la fin de l'année, quand même.
Alors, juste de finir ma démonstration. C'est juste, l'Irlande, c'est là où il y a le plus de jours de vacances. Et la Suisse, vous avez raison, 10 semaines de vacances, où on en est à 16, nous, et à l'Irlande, 19. Et c'est en Suisse et en Allemagne, vous voyez, 10 et 13, j'ai fait exprès de séparer les chiffres. L'Allemagne, 13 semaines seulement. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent de l'école à 15h. Qu'est-ce qu'ils font à 15h? Ils vont faire du sport, une activité utile.
Oui, mais dans des
équipements
sportifs qui sont à la hauteur.
Mais peut-être, et ce sont les deux pays où il y a la meilleure réussite scolaire. Et je ne vous parle pas de la Suisse, où c'est le pays le plus aisé
d'Europe. Alors, Maxime Repère, à ce papier, à cette incise d'Éric de Rydmaten. Vous le rejoignez sur quelques points?
Écoutez, sur ce qui se passe en Allemagne, effectivement, les élèves finissent beaucoup plus tôt, mais derrière, ils ont une activité sportive. Je veux dire, c'est en termes d'organisation, c'est fondamentalement différent de ce qui se passe, en France. Maintenant, après, est-ce que la question des vacances scolaires va permettre de rehausser le niveau d'enseignement?
Ah, on vous a perdu, mais j'aimerais juste faire un dernier dégagement avec vous, Élodie, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé sur la mise en œuvre. On a l'impression qu'il a dit ça un peu de manière un peu survoltée, comme beaucoup souvent.
Improvisé, vous voulez dire ?
Avec Emmanuel Macron, il dit un peu aussi ce qui lui passe par la tête. Non, mais c'est vrai. On voit Pape Ndiaye qui est un peu circonspect à côté de lui, quand même. Mais on sent qu'il a absolument aucune idée de ce qu'il va
pouvoir avoir à sa disposition comme moyen.
Ce qui est drôle, surtout, en fait, à décrypter, c'est qu'on voit le président de la République qui dit ça en se tournant, parce que c'est un peu l'usage, vers son ministre de l'Éducation nationale. Ouais. Manière de dire, il en sera en charge. Je ne sais pas comment il veut repenser le temps scolaire, mais il y a une chose qu'on est quasiment sûr de savoir, que ce ne sera pas Pape Ndiaye qui va le faire, puisque, a priori, il est l'un de ceux les plus sûrs de sortir du gouvernement. Et donc, c'est presque un peu cocasse de voir ça, qui lui dit, oui, voilà, le temps scolaire, il va falloir y travailler. Enfin, peut-être pas vous, mais il faut y travailler.
Il fallait bien qu'il trouve.
Oui, mais c'est drôle, parce qu'on voit même Pape Ndiaye un petit peu. Oui, on verra.
D'accord. Bon, ce ne sera pas pour lui, en tout cas. Hein. Ni peut-être même pour les autres, on verra. Oui. Merci. On va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra pour parler. Ah, bah tiens, pour parler du sort d'Evgeny Prigogine, le chef de Wagner, qui est bel et bien, selon le président du Bélarus, Alexander Loukachenko, sur son territoire. À tout à l'heure. Nous sommes de retour pour la suite de 90 minutes info et nous allons prendre connaissance des dernières actualités avec Somaïa Labidi à nouveau.
Une minute de silence en hommage à Naël à l'Assemblée nationale. Le décès du jeune Naël, âgé de 17 ans, survenu hier à Nanterre, suscite une forte émotion dans le pays. Il conviendra de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame, a déclaré la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, en préambule de cet hommage. Une intervention manifestement pas conforme aux règles, estime Elisabeth Borne. Les images donnent à penser que le cadre d'intervention légale n'a pas été respecté, a insisté la Première ministre lors des questions au gouvernement au Sénat. Dans la matinée, Emmanuel Macron avait évoqué un acte inexplicable et inexcusable. Les suites judiciaires de la manifestation interdite à Sainte-Soline, 6 organisateurs en garde à vue pour organisation de manifestations interdites sur la voie publique. Il s'agit de 6 hommes âgés de 38 à 46 ans, se revendiquant des collectifs Bassine Non Merci, les Soulèvements de la Terre et de la Confédération Paysanne.
Merci beaucoup. On va parler d'Evgeny Prigogine, le chef des troupes Wagner, qui serait donc bel et bien au Bélarus, en tout cas c'est ce qu'assure son président, Loukachenko, une présence qui inquiète les pays occidentaux, leur crainte que Wagner se déploie dans les pays voisins. Et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a donc assuré que l'organisation se défendrait contre toute menace, qu'elle provienne d'ailleurs de la Russie ou du Bélarus, amis et voisins. Faisons le point avec Émilie Gougache.
Volatilisé depuis la fin de sa rébellion, Evgeny Prigogine serait bien sur le territoire biélorusse depuis ce mardi. Si aucune image n'a été diffusée, le président Alexandre Loukachenko a annoncé lui-même son arrivée.
Des garanties de sécurité, comme le président russe l'a promis hier, ont été fournies. Je vois que Prigogine vole déjà dans son avion. Oui, en effet, il est au Bélarus aujourd'hui, comme je l'ai promis.
La présence du chef de Wagner en Biélorussie est loin de plaire aux pays occidentaux. Le secrétaire général de l'OTAN a exprimé ses inquiétudes sur d'éventuels mouvements des forces de Wagner dans la région, assurant que l'Alliance Atlantique se défendra contre toute menace.
Nous avons envoyé un message clair à Moscou et à Minsk. L'OTAN est là pour protéger chaque allié et chaque parcelle du territoire de l'OTAN. Il n'y a donc pas de malentendu, pas de place pour le malentendu à Moscou ou à Minsk quant à notre capacité à défendre les alliés contre toute menace potentielle.
L'OTAN, qui vient de participer à des exercices militaires en Lituanie, pays frontalier de la Biélorussie, 3000 soldats supplémentaires vont y être déployés par l'Allemagne, avec l'objectif de renforcer le flanc oriental de l'Alliance.
Bonjour Gérard Vespierre, je rappelle que vous êtes géopolitologue. On a besoin de votre éclairage, de vos lumières. Merci d'ailleurs d'être parmi nous aujourd'hui. Pourquoi cette crainte de l'OTAN pour commencer? Est-ce qu'on considère qu'il a encore une force de frappe? Mais dans ces conditions, comment? C'est-à-dire avec le soutien d'un Poutine? Et là, il y aurait quelque chose de l'ordre de la stratégie ou comme électron libre tout simplement?
Ah, bonsoir Nerli, merci à vous. Ben, essayons de décrypter effectivement cette situation ensemble. D'un point de vue communication, chacun est dans son rôle, n'est-ce pas, dans son rôle d'image. Prigogine a toujours voulu faire peur, donc il continue à faire peur. Et l'OTAN, voyant un homme qui a quand même sévi sur le théâtre ukrainien, se rapprocher des frontières de l'OTAN, eh bien, effectivement, prend des mesures. Mais dans la réalité de la situation, on se rend compte qu'effectivement, maintenant, si on peut dire, si je puis dire, le roi Prigojine est nu. Il a perdu une grande partie de ses effectifs. Que va-t-il se passer de ses ressources financières qui lui ont initialement permis de monter avec la collaboration de l'État russe le groupe Wagner? Il n'est pas sûr que, étant maintenant en dehors de Russie, il garde les clés du groupe Concorde qui, avec des milliards de dollars, permettait donc de créer, d'alimenter Wagner. Donc le roi est nu, il est en dehors. Je ne vois pas une force marginale qui a eu du mal à faire face à l'armée ukrainienne maintenant se heurter aux armées de 930 millions de citoyens de l'OTAN.
Mais est-ce qu'on sait s'il dispose encore de troupes? Est-ce que des hommes l'ont suivi, par exemple chez Loukachenko, des lieutenants, des hommes qui pourraient continuer d'agiter en sous-main les choses?
Alors, des hommes, oui, certainement, quelques-uns, c'est plus fidèle à des responsables de la communication, responsables à des éléments financiers, etc. Donc, une petite équipe, un commando, si vous voulez, mais certainement pas des bataillons et a fortiori certainement aucun régiment. Donc, il est relativement seul, il est sorti du théâtre russe. Il a quitté la scène, donc maintenant il est certainement isolé. La question qui reste, est-ce que le pouvoir politique russe va aussi le priver de ses ressources économiques, financières, de son activité? Donc il était le grand pourvoyeur de restauration à l'armée russe, à l'administration russe, aux prisons, aux hôpitaux, aux écoles, etc. Donc il avait disposé d'énormes moyens financiers. Est-ce que cela va lui être conservé ou bien est-ce que dans quelques semaines il va le perdre? On va avoir cette ultime étape des poupées russes Prigojine qui s'emboîtent les unes de les autres, eh bien, on aura le dernier exemplaire dans quelques temps.
Alors, une dernière question. Parlons de Vladimir Poutine. Est-il aussi affaibli qu'on le prétend, de votre point de vue?
Mais écoutez, j'ai eu l'occasion, par chance, sur votre antenne, d'expliquer le mécanisme qui, à mon humble avis, a été mis en place. On a cru avoir un putsch, mais ce n'était pas un putsch. C'était la dernière étape d'un départ qui était programmé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, juste avant de déclencher l'ultime épreuve de la marche vers Moscou, prétendue telle, eh bien, Prigojine a dit: Wagner est attaqué. Oui, Wagner a été attaqué par le pouvoir militaire et politique russe. On l'a déshabillé. Le ministère de la Défense a dit: maintenant, vous enregistrez, vous les miliciens, auprès du ministère de la Défense et vous serez payés par nous. Donc, on enlevait à Prigojine ses hommes, ses ressources donc de bataillon. Et quelques mois au préalable, souvenez-vous, il était furieux, on ne lui donnait pas de munitions. Donc on a pris cela comme étant un élément de guerre, oui, mais ça voulait dire aussi de la part du ministère de la Défense: tu es dans notre main, on peut te priver d'éléments essentiels que sont des obus et des cartouches. Donc ça veut dire, si on continue à remonter, qu'il a été la victime d'un plan. Poutine a décidé au début de l'année de se débarrasser de cet homme encombrant et incontrôlable.
Merci beaucoup pour votre éclairage. C'était absolument nécessaire, évidemment, qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Judith Vintraube, pour dire qu'au fond, Prigojine est devenu le maillon faible de cette histoire?
En tout cas, ce à quoi on a assisté, c'est à une sorte de nationalisation de Wagner, en fait, puisque Vladimir Poutine reprend peu à peu les moyens, la main, les effectifs, voilà. De cette milice privée. Reste que il a pu, je parle de Wagner, de Prigojine, mettre la main sur une ville d'un million d'habitants, entamer une marche sur Moscou, il s'en approchait relativement près. C'est pas un signe de force du pouvoir de Vladimir Poutine.
Un petit mot.
Je compléterai ce qui a été dit. En estimant que Prigojine n'est pas encore fini. Pourquoi ? Parce que Wagner, c'est aussi et surtout les opérations en Afrique. Et là, on est dans
Afrique, Mali.
En Afrique noire. Ce sont des puits de ressources éminemment stratégiques. Ça permet aussi aux troupes de Wagner d'expulser progressivement ce qui reste de reliquats de troupes françaises également sur place, l'influence européenne sur place. Ce n'est pas un détail d'un point de vue international. Donc, il est fort probable que Prigojine, on lui demande de se ranger des camions sur le terrain ukrainien. On le surveille de près grâce à l'allié biélorusse. Je serai dans un pays balte, effectivement, je ne serai pas très rassuré en ce moment. Et je serai dans un pays africain également.
Merci beaucoup. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, qui est reçu par Emmanuel Macron ce soir,
il
le dit.
Oui, exactement. Il sera reçu à 18h par le chef de l'État. Il y aura un entretien entre les deux hommes. L'Élysée explique que le but, c'est à la fois de préparer le sommet de Vilnius qui aura lieu au mois de juillet et rappelle que la France est un allié fiable et robuste, qu'elle continue de jouer un rôle central sur le flanc Est. Il rappelle aussi déjà ce qui a été fait et ils expliquent aussi que l'Alliance doit continuer à mener résolument sa mission de défense collective et en bonne coordination avec l'Union européenne de soutien à l'Ukraine.
Merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la question en ce mercredi. On y reviendra bien sûr dans les jours, les semaines qui viennent. Dans un instant, retour évidemment à Nanterre et aux réactions politiques. Il y en a eu un certain nombre dans la foulée de la minute de silence observée à l'Assemblée nationale. Retour à l'enquête, bien sûr, et aux réactions aussi suscitées par la mort de Naël, âgé de 17 ans à Nanterre. Le policier qui, si on se fie aux images, ne semblait pas en état de légitime défense. Il y a donc cette vidéo. Il y a aussi cette première audition du fonctionnaire de police qui pose problème avant l'émergence de la vidéo. Écoutez la réaction de Gérald Darmanin.
Ce policier est actuellement en garde à vue puisque le procureur de la République a ouvert deux enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et avec le préfet de police qui a autorité sur ces motards de la DOPC, nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui dans les heures qui viennent à la fin de sa garde à vue. Donc en complément des sanctions judiciaires que seule la justice peut évidemment décider. Il y aura des sanctions administratives s'il est avéré, en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République.
Alors, dans quel contexte Sandra Buisson a-t-il été amenée à s'exprimer, ce policier ?
En fait, ce sont des propos oraux qui ont été donnés à brûle-pourpoint. En fait, les informations qui nous sont remontées sont celles de la fiche Pégase, c'est-à-dire ce qui est annoncé sur les ondes au moment où les faits se passent. Selon la procureure, le contrôle se passe à 8h18. À 8h22 et 45 secondes, il est écrit sur la fiche Pégase. Le policier s'est placé en avant de la voiture pour la stopper et le conducteur a foncé sur le policier. Donc c'est ce qui est remonté oralement. Alors, du policier ou des primo-intervenants à brûle-pourpoint, peut-être l'a-t-il dit aussi oralement à des supérieurs. En revanche, il n'y a pas eu de PV.
D'accord. Parce qu'en peut-être fait, ne l'a-t-il pas dit aussi
rapidement. Alors, ce sont les premières... C'est pour ça d'ailleurs que les médias, hier matin, remontent de sources policières que, selon les premiers éléments, le véhicule fonce sur le policier. C'est ce que nous avons donné comme information, nous médias, parce que plusieurs sources nous remontaient ça. Plusieurs sources qui remontaient en fait les informations de cette fiche Pégase. Il s'avère qu'effectivement, vu la vidéo, le positionnement du policier n'est pas tel qu'il a été annoncé oralement. Mais effectivement, il n'y a pas eu de PV écrit de la main des policiers disant que le véhicule leur fonçait dessus. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que les deux policiers ont dit en audition. Cette fois à l'IGPN, l'un a été auditionné sur le refus d'obtempérer, c'est le collègue, et puis le tireur, lui, pour les faits concernant son tir. Peut-être n'a-t-il pas donné cette version.
C'est ça, Yann Bastia, en tout état de cause, pour l'instant, on ne peut pas dire formellement que le policier a menti dans ce qu'il a dit. On ne peut pas le dire et l'affirmer
non,
comme
Sandra
ça.
Sandra Buisson le dit très très bien. On va commencer sur... on n'en serait pas à ce drame-là. Effectivement, les collègues auraient écrit sur ce qu'on appelle le procès-verbal de saisine, certainement l'interpellation, si on n'en était pas arrivé là. Donc là, on aurait eu des propos. Là, ils n'ont jamais écrit. Les premières constatations, la saisine du dossier, ce n'est pas eux qui la rédigent. Donc effectivement, il y a peut-être du verbal et qui est perturbé par l'effet tunnel. Hein. Je veux reparler de ça. La haute intensité qui se passe, à ce moment-là, l'action de feu, on m'indique que dans ces actions-là, on ne retrouve plus que 30% de ses capacités cognitives. Imaginez l'effet, le bruit, le coup de feu, tout ça. Donc la déclaration du collègue qui dit « j'étais peut-être devant le véhicule », il se sent peut-être devant le véhicule, ce qui n'est au vu des premières images pas le cas. Donc on est pour l'instant sur du déclaratif. Pour le fou en écriture publique, on attendra que ça soit écrit.
Et puis, il y avait aussi l'avocat Thibault de Montbrial, qu'on a entendu tout à l'heure dans un extrait au début de l'émission. Il est président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Écoutez ce qu'il dit sur le permis de tuer.
Le refus d'obtempérer n'a jamais conduit à un permis de tuer. Le refus d'obtempérer en soi n'a jamais... Il n'y a jamais eu de tir sur un refus d'obtempérer. Jamais. Il y a toujours un tir lorsque, virgule, au refus d'obtempérer, virgule, s'ajoute ce que le policier estime être une menace imminente pour lui-même ou pour autrui.
C'est bien expliqué ?
Comment voulez-vous que j'explique mieux que Thibault de Montbrial ? Mais bien sûr que tout est dit. On fait tout de suite le lien, c'est action de feu, exécution sommaire, peine de mort, vous le disiez tout à l'heure, et refus d'obtempérer. Mais non, le refus d'obtempérer, c'est totalement décorrélé de ça. C'est un article du code de la route. Là, on est sur ou de légitime défense ou sur le 435-1. Thibault de Montbrial le dit très très bien. C'est pas un permis de tuer, loin de là. Le collègue se sent, ou les collègues plus généralement sur ce type de fait, se sentent en danger. Est-ce qu'ils font à juste titre ou à tort preuve de légitime défense ? L'enquête l'a dit.
Réaction de Jean-Luc Mélenchon qui dit « La police doit être entièrement refondée. La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer sauf légitime défense. » Réaction, Judith.
Déjà non, un policier a le droit de tuer, pas simplement pour se protéger lui-même, mais pour protéger autrui. On oublie toujours ça. Il n'y a pas que la légitime défense. Quelqu'un qui refuse d'obtempérer, qui prend la fuite, ce n'est pas le cas visiblement vu la vidéo dont on dispose, peut aussi écraser d'autres gens. Ça s'est vu malheureusement et ça s'est fait. Donc le policier ne protège pas que lui-même, il protège aussi la population, d'une part. D'autre part, l'une des propositions de Jean-Luc Mélenchon pour la police, c'est de la désarmer. Voilà.
Oui, bon, et ça ne doit pas dire. Sandra Buisson, en gros, s'il y avait eu un enfant ou n'importe quel passant dans la ligne de la trajectoire de la voiture, ça aurait changé la donne.
En fait, là, ce qui s'applique en l'état, les policiers étaient identifiables comme policiers, donc ce n'est pas l'article de la légitime défense qui s'applique, mais l'article 435.1 du Code de la sécurité intérieure. À l'intérieur, il y a 5 cas particuliers, enfin situations qui sont décrites et qui permettent de dire que l'utilisation de l'arme est légitime. D'abord, premier critère, il faut une absolue nécessité. Ça veut dire que je ne peux pas faire autrement qu'utiliser mon arme pour la situation à laquelle je suis confrontée. Il faut que ce soit proportionnel à la menace. Quelle était cette menace à ce moment-là ? Quelle était la vision du policier sur cette menace au moment où il a tiré ? Y avait-il une menace pour la vie de l'agent, vous l'avez dit, ou pour une tierce personne ? Ça veut dire, est-ce que quelqu'un risquait d'être blessé dans la trajectoire du véhicule ? Et ça, est-ce que le policier le savait ? Est-ce que l'un des occupants du véhicule présentait une menace pour lui, le policier ? C'est notamment ce qu'on dit, c'est est-ce qu'il y avait par exemple une arme à l'intérieur de la voiture ? Donc on imagine que si ça avait été le cas, effectivement le procureur au titre de l'article 11 aurait pu communiquer à ce sujet. La question cruciale, c'est que savait le policier au moment où il décide de tirer sur le danger éventuel que représentaient les individus à l'intérieur de la voiture et sur les individus
qui pouvaient être blessés. D'où la nécessité de l'enquête et d'approfondir complètement cette enquête et effectivement de ne pas prendre la parole à tort et à travers pour les uns et les autres de la classe politique, en tout cas. Merci beaucoup à tous les 5 de m'avoir accompagné cet après-midi dans un instant. Punchline, on se retrouve avec Laurence Ferrari.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.